Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour amis auditeurs, nous poursuivons nos études sur les épîtres de Jean avec la troisième leçon qui concerne la période du 11 au 17 juillet 2009. Et là, cette semaine, le titre général est le suivant « Marcher dans la lumière, se détourner du péché ». Voici le verset à mémoriser, nous le trouvons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Voici quelques questions clés pour cette semaine. Que veut dire la Bible lorsqu'elle déclare que Dieu est lumière? Quelles erreurs concernant la réalité du péché Jean essaye-t-il de combattre dans ses premiers versets? Et quelle promesse nous apporte-t-il comme remède au péché qui est dans notre vie? Et enfin, pourquoi avons-nous besoin de ces promesses? Une œuvre plutôt insolite a fait l'objet d'une exposition en 1982 dans un musée d'art moderne. Il s'agissait d'un fusil de chasse fixé sur une chaise. Le visiteur était invité à s'asseoir sur la chaise et à regarder droit dans le canon. Or, le fusil était chargé et relié à un minuteur de façon à ce que le coup parte à un moment indéterminé d'ici les 100 prochaines années. Il était assez surprenant de voir les gens faire la queue pour s'asseoir et poser l'œil à l'endroit même où devait se déclencher l'explosion, alors qu'ils savaient très bien que celle-ci pouvait se produire à n'importe quel moment. N'est-ce pas là ce qui s'appelle tenter le destin? Malheureusement, les gens font de même avec le péché. Ils croient pouvoir regarder en face et s'en sortir indemne. Mais contrairement au fusil de chasse, le péché, lui, sauf si on s'en occupe, il tue à coup sûr. Et dans l'étude de cette semaine, Jean parle du problème du péché et de sa solution en Jésus-Christ. Nous commençons donc par le dimanche 12 juillet 2009. Et là, il sera question de la lumière. Nous allons lire 1 Jean chapitre 1 verset 5 et nous allons réfléchir à ce que signifie pour Jean la phrase « Dieu est lumière ». Lisons donc 1 Jean chapitre 1 et le verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres ». Nous poursuivons avec un psaume, le psaume 27, le chapitre 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Ensuite, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 19. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et enfin, Jean chapitre 8 et verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière fait référence à la fois à Jésus et au Père. Elle est la gloire de Dieu qu'elle désigne comme l'auteur du salut. Cette image met également l'accent sur les notions de péché et de révélation. Par rapport à notre contexte particulier, elle souligne la justice, la sainteté et la perfection du Seigneur. Jean ne se contente pas de dire que Dieu est lumière, mais il ajoute qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. En précisant cela, l'apôtre souligne, dans les termes les plus forts qui soient, que Dieu est parfait, et qu'il est étranger au péché. Il ne peut être comparé aux dieux romains ou grecs, chez qui, croyait-on, qualité et défaut étaient mêlés. Dieu est sainteté, bonté et justice pure. En un sens, il est aussi opposé au péché que la lumière l'est aux ténèbres. Toutefois, en mentionnant les ténèbres, Jean introduit un élément nouveau qui crée un cadre pour ce qui va suivre. En tant qu'être déchu, plongé dans le péché, les hommes appartiennent, de par leur nature, au monde des ténèbres plutôt qu'au royaume de la lumière. Si Dieu est lumière et si nous sommes dans les ténèbres, le contraste entre nous et Dieu, notamment en termes de sainteté et de justice, ne pourrait être plus grand. Voici maintenant le lundi 13 juillet 2009, et là nous allons aborder le problème du péché. 1 Jean 1, les versets 6 à 10, forment un tout. Après sa déclaration essentielle concernant le caractère de Dieu, Jean évoque certaines croyances qui, semble-t-il, circulent chez les chrétiens et qu'il désapprouve. Ces 5 versets commencent plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire par la formule « si nous ». Toutefois, on peut noter de grandes différences entre eux. Et voyons de quelles notions il est question dans les versets 6, 8 et 10. Et quelles idées fausses se sont propagées? Et qu'ont-elles en commun? Lisons donc 1 Jean, versets 6, 8 et 10. Donc 1 Jean, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 8 maintenant. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et maintenant le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. La première déclaration de Jean concerne la communion avec Dieu. Certains croyants prétendent être en communion avec Dieu, alors qu'en réalité ils sont dans les ténèbres, ce qui signifie qu'ils ne marchent pas vraiment avec Dieu. Car marcher dans la lumière se traduit par une véritable communion avec Dieu. Ceux qui la vivent sont lavés de leurs péchés. Marcher dans les ténèbres signifie donc, d'une certaine manière, vivre dans le péché. En conséquence, pour Jean, vivre dans le péché tout en déclarant être en communion avec Dieu est tout simplement un mensonge. Les deux déclarations suivantes, au verset 8 et 10, ont également un rapport avec le péché. Si Jean est contre le fait de pratiquer le péché, il insiste clairement sur sa réalité dans notre vie. Au verset 8, il semble s'attaquer à l'idée répandue à l'époque selon laquelle les êtres humains ne seraient pas pécheurs. Un enseignement qui va à l'encontre des doctrines chrétiennes les plus fondamentales. Notons la progression qui apparaît dans ce texte. Au verset 6, les gens mentent. Au verset 8, ils se mentent à eux-mêmes. Au verset 10, ils font de Dieu un menteur. Jean, c'est évident, sait que le péché représente un problème bien réel pour l'humanité et que ce problème est grave. Et en conclusion de cette journée du lundi, voici quelques questions à méditer. À quel point sommes-nous assez lucides et honnêtes avec nous-mêmes pour reconnaître la présence du péché dans notre vie? Avons-nous tendance à l'oublier, à la justifier ou à nous condamner à ce sujet? Comment cultiver une attitude juste? Eh bien, voici maintenant le mardi 14 juillet 2009. Et là, il s'agit de réponse au problème du péché. Jean traite ici de la gravité du péché. Comment comprend-il celui-ci? Dans 1 Jean, chapitre 3 et verset 4, il l'assimile au mal ou à la violation de la loi. Et d'après 1 Jean chapitre 5 verset 17, le péché c'est mal agir, l'injustice, c'est s'écarter de la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Le péché s'oppose à la vérité, il éloigne le pécheur de Dieu et c'est cette séparation qui conduit à la mort spirituelle. Si au singulier le mot péché évoque l'état de celui qui s'est séparé de Dieu, le pluriel péché désigne les actes pécheurs. Quelle que soit notre façon de l'envisager, une chose est certaine, le péché est quelque chose de réel, et si nous ne faisons rien à ce sujet, il nous détruira. Les versets de 1 Jean chapitre 1 versets 7 et 9 contiennent des promesses concernant la solution au problème du péché. Lisons-les de façon à les réaliser dans notre vie et de faire l'expérience que Dieu nous promet. Donc 1 Jean chapitre 1 et les versets 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le pardon des péchés est devenu possible grâce à la mort du Christ sur la croix, à son sang versé en sacrifice, le sacrifice par excellence. Parce que nous avons transgressé la loi, il est mort et nous a libérés de la condamnation éternelle, conséquence de notre transgression. Bien plus, son sang nous purifie de tout péché. Toutefois, il est nécessaire que, de notre côté, nous reconnaissions nos péchés. Le verbe grec figurant dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, est traduit par « reconnaître » et peut également signifier « admettre » et parfois « confesser ». Le texte ne dit pas à qui nous devons confesser nos péchés, mais il s'agit assurément de Dieu, car dans la suite du verset, nous apprenons que si nous confessons, si nous avouons nos péchés, Dieu est juste et digne de confiance et nous les pardonnera. Il se peut que cette confession se fasse devant les autres, devant ceux qui ont eu à souffrir de notre péché. Mais en tout état de cause, le pardon ne peut venir que de Dieu seul. Le verset de 1 Jean, chapitre 1 et verset 9, a également force de commandement. Nous devons déposer nos péchés devant Dieu, qui alors nous pardonnera et nous purifiera. Péché fait de nous des coupables. Nous avons besoin de pardon. Péché nous souille. Nous avons besoin de purification. En Jésus, Dieu nous donne le moyen d'accéder à l'un comme à l'autre. Ainsi s'achève cette journée du mardi. Entreprenons le mercredi 13 juillet 2009 et il s'agit de l'objectif du chrétien. Nous sommes exhortés dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 à ne pas pécher. Mais comment devons-nous comprendre cette exhortation? 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Cet appel à ne pas pécher est lié à un contexte particulier. Marcher dans la lumière, qui fait suite à l'affirmation « Dieu est lumière ». Si nous voulons vivre en communion avec Dieu et avec ses enfants, nous devons marcher dans la lumière, c'est-à-dire renoncer au péché. Jean s'adresse aux croyants avec bienveillance et avec une certaine familiarité. Il les appelle « mes enfants ». Il leur explique la raison pour laquelle il leur écrit. Ils doivent renoncer complètement au péché. Ce faisant, il ne suggère pas qu'on peut vivre sans péché, mais il supplie les chrétiens de ne pas pécher de façon délibérée. Jean contrebalance son exhortation à ne pas pécher par « Mais si quelqu'un vient à pécher ?» Lisons donc dans Romains chapitre 3 les versets 9 et 10. Quoi donc ? Sommes-nous supérieurs ? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Un autre texte que nous trouvons dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 15, « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. » Cette discussion sur le péché pourrait être mal interprétée. On pourrait penser qu'il n'est pas grave de pécher et de dire « De toute façon, vous êtes pécheur, vivez donc votre vie et ne vous souciez pas du péché. » C'est pourquoi Jean doit pondérer ses déclarations sur le péché et il le fait dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Le but d'être disciple du Christ est de ne pas pécher. Le chrétien doit admettre qu'il est pécheur, mais il doit chercher à vivre sans péché. Mais en même temps, Jean ne veut pas donner l'idée que nous pouvons être totalement sans péché. C'est pourquoi, tout en nous exhortant à ne pas pécher, il ajoute « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat ». On ne peut reconnaître plus clairement la réalité du péché dans la vie du chrétien. Il arrive même qu'à des chrétiens d'être engagés et sincères, il leur arrive de commettre des péchés, et il est hélas toujours possible à des membres d'Église de pécher. C'est pourquoi ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aide à résister à la tentation, mais qui intercède également pour eux quand ils n'y sont pas parvenus par eux-mêmes. Et voici une question à méditer. Comment apprendre à vivre dans ce tiraillement entre notre état pécheurs et les exhortations particulièrement vives dans la Bible à ne pas pécher. À réfléchir, bien entendu. Et nous abordons le jeudi 16 juillet 2009, et là il s'agit du réconfort du chrétien. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, contient de magnifiques déclarations qui réconfortent le pécheur repentant et lui redonnent espoir et courage. Malgré le péché, la culpabilité et les affreuses conséquences qu'entraînent nos manquements, il existe une solution. Jean a déjà parlé du pardon et de la purification des péchés. Il revient maintenant sur le sujet en précisant que le pardon est possible grâce à Jésus. Mais comment ? Premièrement, parce que Jésus est notre avocat et qu'il intercède en notre faveur. Dans notre texte, cet avocat est identifié comme étant le Messie, le Christ, dont Jean dit qu'il est juste. Or, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, la justice est un attribut de Dieu le Père. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, elle constitue aussi un attribut du Fils, grâce auquel celui-ci peut intercéder en notre faveur. Deuxièmement, nous avons l'assurance du pardon parce que, par sa mort sacrificielle, Jésus a accompli la propitiation ou l'expiation pour nos péchés, c'est-à-dire qu'il en a payé le prix. La dette qui est la nôtre et que jamais nous n'aurions pu payer, Jésus, eh bien, il l'a payé pour nous. C'est pourquoi j'en présente Jésus comme sacrifice et intercesseur. Cela implique, comme en témoigne le Nouveau Testament, que Jésus a vécu parmi les hommes une vie sans péché, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, et qu'il est monté au ciel, où il intercède en notre faveur. Le mot grec « parakletos » rendu par « défenseur » dans 1 Jean chapitre 2 a été également traduit de diverses manières, notamment par « consolateur », par protecteur, avocat, médiateur ou intercesseur. Il désigne une personne appelée aux côtés d'une autre pour la défendre. Un paraclétos peut être quelqu'un qui vient aider un ami. Dans l'évangile de Jean, cette aide, c'est le Saint-Esprit. Dans la première épître de Jean, c'est Jésus qui aide et qui intercède. Toutefois, si nous parlons de Jésus comme de notre avocat, et si nous trouvons beaucoup de réconfort dans le fait qu'il joue un rôle clé dans le pardon de nos péchés, prenons garde de ne pas donner l'impression que le Père est méchant et dur et qu'il faut un intercesseur pour le convaincre de nous pardonner. Rien ne justifie une telle image de Dieu. Il est celui qui a envoyé Jésus auprès de nous. Comme on nous l'a dit plus haut, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier. Jésus n'a pas besoin d'apaiser le Père, bien au contraire. C'est le Père lui-même qui a révélé par Jésus son désir de nous sauver. Et en conclusion de cette journée, voici quelques lignes à méditer. En nous appuyant sur ce que nous venons de dire, comment comprendre les magnifiques promesses qui nous sont données dans cette première épître de Jean? Que signifie-t-elle pour notre cheminement quotidien avec le Seigneur? Comment les concrétiser davantage dans notre vie? Et quelle transformation devrait-elle opérer dans notre expérience chrétienne? Ainsi s'achève cette journée du jeudi. Et nous nous trouvons au vendredi 17 juillet 2009. Et pour aller plus loin, nous avons quelques citations à vous proposer, notamment citation du livre « Conquérant pacifique » d'Ellen White. Voici ce qu'elle dit. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Les conditions nécessaires pour bénéficier de la miséricorde divine sont simples et raisonnables. Pour nous accorder son pardon, le Seigneur ne réclame pas de nous quelque chose de pénible. Nous n'avons pas besoin de faire de longs et fatigants pèlerinages, ni de nous astreindre à des pénitences douloureuses pour recommander notre âme à Dieu ou expier nos transgressions. Celui qui avoue et délaisse son péché obtient miséricorde. Le Christ plaide dans les cours célestes pour son Église. Il intercède pour ceux qu'il a rachetés, au prix de son sang. Ni les siècles, ni les millénaires n'amoindrissent l'efficacité de son sacrifice expiatoire. Rien, ni la vie, ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, non parce que nous nous accrochons à lui, mais parce qu'il nous tient fermement dans ses bras. Si notre salut dépendait de nos propres efforts, nous ne pourrions être sauvés. Mais il dépend de celui qui est le garant de toutes les promesses. Voici quelques lignes à méditer pour terminer cette semaine. Certaines personnes croient qu'il faut être absolument libre de tout péché pour pouvoir être sauvé. Comment remettons-nous en question cette croyance sans pour autant donner l'impression que le péché n'a pas d'importance? Un jour, un homme a tué la plupart des membres d'une famille qui n'était pas chrétienne et qui n'avait jamais témoigné d'une foi quelconque en Jésus. Des années plus tard, sur son lit de mort, le meurtrier a confessé ses péchés et accepté le Christ comme son sauveur. Comment répondrions-nous à ce commentaire fait par l'un des membres survivants de cette famille? Ainsi, d'après vous, les chrétiens, toute ma famille est destinée au châtiment final, alors que celui qui l'a assassiné a désormais la promesse d'aller au ciel? Est-ce vraiment ce qu'enseigne votre religion? Eh bien, des questions auxquelles il faut réfléchir, bien entendu, en terminant cette semaine d'études. Et nous vous invitons à la semaine prochaine. À bientôt, chers amis.
La Bible dit que la terre et les cieux passent. Fera
mal ne sera plus, la mort disparaîtra.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Jesus is coming again. She rock, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming.